par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire Vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, un recueil de nouvelles de l'écrivain yiddish de Russie, Sholem Aleichem, 13 nouvelles qui nous plongent dans le monde juif de l'Est du début du XXe siècle, qu'il soit laïque ou religieux, et nous fait toucher sa grande diversité. Les marchands des villes, les rabbins des châtels, les bourgeois qui renoncent à leur culture, les intellectuels désargentés, précepteurs, les émigrés déracinés, les ouvriers mais aussi les mères, les pères, les enfants, de Russie, d'Allemagne, de Hongrie ou d'Odessa. Sholem Aleichem nous emmène au cœur de villages menacés par les pogroms ou dans les cuisines, où mijotent le poisson farci et les gâteaux de fromage blanc. Ce recueil est aussi l'occasion d'évoquer le parcours et la personnalité de cet écrivain méconnu en France, mais qui est une célébrité aux États-Unis et en Russie. Le parcours d'un homme en mouvement qui est mort de la tuberculose en pleine guerre, après avoir vécu en Suisse, à New York et en Angleterre. Avec nous pour en parler, les traducteurs Arthur Langerman et Ariel Sion. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, peut-être vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de réunir ces nouvelles et de les traduire.
Les nouvelles ont été choisies au gré du bon plaisir d'Arthur Langerman, qui est mon complice dans cette affaire. Et donc il les a prises, il les a aimées. Et puis en les travaillant, elles se sont peu à peu ordonnées selon le calendrier, selon ce qui faisait un ordre à peu près logique, en étant en fait toutes différentes les unes des autres, parce que l'idée qui a été postérieure finalement à la traduction de ces nouvelles a été d'en montrer que chacune de ces nouvelles soit la description d'un monde entre plusieurs mondes et d'une situation, d'un type de personnage. Voilà, ça a été ce qui a permis de faire ce recueil. Nous avons aussi été assez peu orthodoxes. En général, dans un recueil de nouvelles, dans un recueil de morceaux choisis, on prend la première nouvelle traduite, la première histoire courte traduite, et on met son titre comme titre de l'ouvrage. Et là, nous avons choisi la dernière nouvelle et nous... Pour le titre de l'ouvrage.
Alors peut-être vous pouvez nous dire, Ariel Sion, comment vous avez découvert cet auteur, Sholem Aleichem, et qu'est-ce qui vous séduit chez lui ?
Comment j'ai découvert Sholem Aleichem, je ne sais pas, parce que j'ai découvert cet auteur en même temps que je me suis intéressée au judaïsme, c'est-à-dire tout début de l'adolescence. Quand j'ai commencé à pouvoir lire des livres vraiment d'adultes, j'ai pu lire Sholem Aleichem vers 12 ans, 13 ans en français. Et puis, comme beaucoup d'enfants juifs, on nous a emmenés voir le violon sur le toit. Qui était la comédie musicale tirée de l'œuvre de Thévier d'Hermilkriker, de Thévier le laitier, de Sholem Aleichem. Voilà.
Alors on sait que ce nom qu'il utilise pour écrire est un pseudonyme, qu'il s'appelait en fait Sholem Rabinovitch. Pourquoi ce pseudonyme et puis pourquoi autant de pseudonymes ? Parce qu'il en a eu énormément.
Alors moi, je ne connais pas les autres pseudonymes de Sholem Aleichem parce que Sholem Aleichem est connu comme Sholem Aleichem. C'est vraiment là qu'il a accroché le public juif. Alors Sholem Aleichem, c'est Shalom Aleichem pour ceux qui le diraient en hébreu. C'est une salutation. En fait, c'est la manière dont on se retrouve avec des gens. Et aussi, il y a déjà une connotation absurde dans Sholem Aleichem, parce qu'à Sholem Aleichem, la paix soit sur vous, on répond sur vous, soit la paix, Aleichem Sholem. Donc il y a déjà quelque chose dans l'adresse qui a quelque chose d'amusant. Et c'est une manière aussi pour cet auteur d'entrer en communication avec son lecteur et d'emmener aussi son lecteur dans son histoire. Et sous ce masque, Sholem Rabinovitch raconte des tas de choses et fait parler des personnages en étant toujours lui, finalement, l'observateur de sa propre narration.
Alors peut-être on peut remettre dans son contexte cet auteur, Sholem Aleichem, et puis essayer de raconter, d'expliquer ce combat qu'il a mené pour la reconnaissance du yiddish comme une langue du peuple juif.
Alors je ne sais pas si Sholem Aleichem est quelqu'un qui combat C'est quelqu'un qui est moins idéologique que beaucoup d'écrivains yiddish de sa génération, beaucoup d'écrivains en hébreu ou en russe de sa génération, d'écrivains juifs de sa génération. Sholem Aleichem, j'allais dire, est finalement le plus consensuel et en même temps, finalement, le plus critique des travers du monde juif. Sholem Aleichem n'est pas là pour édifier les masses. Il aurait pu faire une grande carrière en russe et il devient par son style un très grand écrivain yiddish, mais aussi parce que en yiddish il a un lectorat juif qu'il veut toucher, qui sont les masses juives de l'Empire russe. Il faut dire que l'Empire russe à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle a en son sein la plus importante population juive du monde, tellement importante qu'aujourd'hui même après la Shoah, la majorité des juifs du monde ont un ancêtre qui vient de cette zone géographique. En tout cas, pour beaucoup de juifs, c'est le cas. Voilà.
Donc, c'était aussi le choix d'être lu par le plus grand nombre. Sholem Aleichem avait le souci d'être lu et d'être entendu.
D'être entendu aussi, parce que la littérature de Sholem Aleichem est très orale, d'être lu en effet par le plus grand nombre de juifs possible, et qu'en plus il a trouvé un style qui l'a rendu, à défaut de le rendre riche, extrêmement populaire. Enfin, beaucoup d'histoires de Sholem Aleichem sont parues dans des journaux et les gens l'attendaient. Et puis aussi, souvent dans les journaux juifs, on attendait le vendredi, que le journal est plus important, avec plus d'histoires, avec des feuilletons. On est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Les feuilletons sont très importants dans les journaux. Et donc le vendredi soir, pour Shabbat aussi, on va lire. Et Sholem Aleichem, c'est aussi un des chants traditionnels de Shabbat où on accueille des anges. Donc j'allais dire, ce sont diverses accroches qui pouvaient attirer le lecteur. Alors la littérature de Sholem Aleichem n'a absolument rien de religieux. Et cependant, elle était assez consensuelle. Bon, des juifs peut-être extrêmement orthodoxes n'auraient pas lu Sholem Aleichem, mais il n'en reste pas moins que pour la plupart des juifs, il est devenu en son temps et de son vivant l'auteur yiddish le plus populaire.
Alors peut-être on peut essayer de dérouler un peu le fil de la vie de Sholem Aleichem. Donc il naît en 1859, donc on l'a dit, dans l'Empire russe, dans une famille bourgeoise. Il a une éducation assez complète, assez mixte. Il sera rabbin à un moment de son existence.
Oui, alors il est un rabbin d'État. Il n'est pas un rabbin comme sont la majorité des rabbins de son époque dans l'Empire russe, c'est-à-dire des gens qui sortent des yeshivas et des yeshivot et des écoles talmudiques. Là, il est ce qu'on appelle... Oui, un rabbin d'État qui sort d'un séminaire. Il y a eu des essais dans l'Empire russe de faire des rabbins à la mode occidentale, comme on pouvait en avoir en France à la même époque. Et en général, bon, c'était des gens qui étaient moins pratiquants que la plupart des rabbins de l'Empire russe. Et Sholem Aleichem a une formation rabbinique. Il exerce à un moment très peu de temps cette fonction, mais en fait ça l'aidera peut-être du point de vue de son éducation et pour sa narration, mais ce n'est pas quelque chose de fondamental dans sa vie, sauf que ça lui permet de savoir raconter des histoires et d'utiliser le mode traditionnel, une partie du mode traditionnel de narration pour raconter ses histoires.
Alors, on sait aussi qu'il s'est intéressé, il était proche des mouvements sionistes.
Oui, mais Sholem Aleichem n'est pas un politique, il est proche, il est touché. Il est touché par son peuple, Sholem Aleichem. C'est peut-être pour ça aussi que son peuple a aimé sa façon de parler. Il se moque sans se moquer. Tout est toujours dérisoire. Quand il parle de Kasri Levké, notamment de la naissance du sionisme, il le replace dans le contexte de Kasri Levké. Ce n'est pas dans le recueil que nous avons traduit. Mais par exemple, d'un seul coup, ce petit state imaginaire, Kasri Levké, la ville des miséreux, eh bien... se divise entre, par exemple, les anciens et les modernes, ceux qui veulent aller en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, les traditionnels, et puis les modernes qui veulent aller en Palestine. Donc il y a toujours cette chose amusante, cette façon à la fois touchante et dérisoire de décrire les mouvements de la modernité.
Oui, on sent beaucoup cette tendresse dans ces textes et on sent aussi ce souci, en tout cas ce regard qu'il pose sur l'émigration, une émigration qu'il a lui-même connue puisqu'il a quitté en 1905 après la révolution avortée en Russie, puis le déclenchement de pogrom, il a quitté donc la Russie pour émigrer voilà, à New York, Genève, Londres, il a beaucoup bougé.
Alors oui, il s'en va de Russie comme beaucoup de gens, comme beaucoup de ses contemporains, et puis il fait différentes haltes. À un moment, il est à Genève, qui est une ville au début du XXe siècle, qui compte, comme d'autres villes en Suisse, aussi pas mal d'émigrés de l'Empire russe, divers émigrés. Et après, il va poursuivre sa route jusqu'en Amérique, où il mourra, en effet. Oui.
Alors peut-être avant d'évoquer les nouvelles qui sont réunies dans ce recueil, on peut, pour finir sur la personnalité, sur la vie de Sholem Alekhem, évoquer sa mort qui a été un événement très important à New York.
Son enterrement est quelque chose d'absolument impressionnant. C'est-à-dire que, Sholem Alekhem a perdu beaucoup d'argent dans sa vie. Cependant, il a été un écrivain extrêmement un écrivain à succès, un écrivain extrêmement populaire. Et quand il meurt, en effet, c'est un grand personnage qui meurt. C'est une foule immense qui va enterrer son auteur, celui qui a sans doute restitué à tous les Juifs ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont. Parce que pour qui connaît un peu le monde juif ou qui ne le connaît pas, Sholem Alekhem décrit ce monde avec une perception, je pense, inégalée jusqu'à aujourd'hui.
Alors peut-être on va s'adresser à Arthur Langermann pour qu'il nous lise un extrait d'une nouvelle qui lui plaît plus particulièrement dans ce recueil.
Je vais vous dire quelques lignes de la nouvelle qui s'appelle Blintzes. Dans une des rues transversales de la ville de N, le matin du premier jour de Pentecôte, on vit passer un coupé dans lequel était assis un élégant individu coiffé d'un haut de forme. Il se couvrant la tête d'un parapluie, et cela malgré un ciel pur comme l'or. En arrivant à la plus belle et la plus haute façade de la ville, l'individu sauta du coupé, regarda de tous les côtés, paya rapidement le cocher et lui fit un geste de la main sans parole, comme s'il lui disait « Je n'ai plus besoin de toi, tu peux continuer ta route ». Le coupé repartit et l'individu rebroussa chemin de trois numéros, s'arrêta au 21B devant une maison ancienne, aux murs noircis de suie, et sortit un élégant carnet d'ivoire dans lequel il lut en silence. Numéro 21B dans la cour, troisième étage à gauche. Après avoir sonné à la porte, il entra dans une grande cour carrée comme un cube et se mit à observer les murs, les portes et les fenêtres. Finalement, il remarqua une enseigne blanche sur laquelle était écrite en grandes lettres noires « Cacher ». « Ah, c'est bien là !» dit l'individu en se parlant à lui-même. Un étrange éclat fit briller ses yeux et sur ses lèvres, on vit apparaître le sourire d'une personne ayant trouvé ce qu'elle cherche. À pas rapide, il grimpa jusqu'au troisième étage et se trouva devant trois portes, une devant lui, une à droite et une à gauche, et sur celle de gauche, il retrouva l'inscription « Cacher ». Après avoir repris son souffle et essuyé son front, il s'avança finalement vers la sonnette. C'est ici que nous devons interrompre le récit et éclairer le lecteur. Qui est donc ce mystérieux individu? Pourquoi se déplace-t-il dans cet accoutrement? Pour quelle raison a-t-il décompté trois numéros dans la rue? Et pourquoi s'est-il tellement réjoui lorsqu'il a lu le mot « cachère » Mes chers amis, ce n'est pas Sherlock Holmes à qui vous avez affaire, mais c'est le héros de notre roman, Marcus Bieber. Marcus Bieber, représentant de la firme Bieber, Spack et compagnie. Je ne vais pas vous dire exactement de quoi s'occupe cette firme. Je sais seulement que Marcus Bieber, le représentant de la firme Bieber, Spack et compagnie, est un riche commerçant aisé et un robuste jeune homme, un être rare et aimable, et une aimable personne qui est encore célibataire. Mais que les marieurs ne se réjouissent pas trop vite, Marcus Bieber s'est un jour juré que jamais il ne se marierait. Ceux qui le connaissent de chez lui racontent que dans sa jeunesse, Marcus Bieber était un élégant cavalier qu'on surnommait « beau gosse » et qui s'est fait une solide réputation de danseur mondain. C'était tout un honneur pour les demoiselles de sa ville que de pouvoir danser avec beau gosse. Toutes les filles aimaient danser avec un beau cavalier. Pourquoi pas? Ce n'est tout de même pas un péché. Avec qui devrait-elle danser? Avec vous? Avec moi? Nous sommes déjà trop âgés pour cela. Et en plus déjà mariés. Et nous avons probablement oublié depuis longtemps le langage de la danse. Le langage de la danse est une sorte de langage qu'il faut connaître. Notre héros, Marcus Bieber, pouvait danser pendant plus d'une heure et ne pas s'arrêter de parsemer des phrases comme si c'était des fleurs. Une des trois, vous êtes plus légère qu'une plume. Une des trois, votre taille est celle d'une guêpe. Ah bon? Vous ne saisissez pas? C'est une chose qu'il faut connaître et qu'il faut savoir comment se conduire avec les demoiselles et comment il faut se tenir, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire et à qui. Je le sais de ma propre expérience. Un jour que je me trouvais en société, on m'a présenté aux plus belles dames et demoiselles de la ville comme écrivain et humoriste. Un bouquet de dames et de demoiselles m'a entouré de toutes parts. Elles voulaient m'entendre dire quelques bons mots. J'ai parlé de littérature. Au début, les dames souriaient très gracieusement. Ensuite, elles ont commencé à se regarder les unes les autres. Un peu plus tard, j'ai remarqué qu'elles se cachaient la bouche pour qu'on ne puisse pas voir qu'elles bâillaient. En fin de compte, je me suis retrouvé tout seul comme Robinson Crusoe. Ces dames et demoiselles s'étaient enfouies dans un autre coin où se trouvait un beau et grand jeune homme avec qui elles se sont mises à rire avec tant de joie que c'était plaisir à voir de loin. J'ai demandé qu'on me présente ce jeune homme. On m'a présenté, son nom était Marcus Bieber.
Merci beaucoup Arthur Langerman pour cet extrait de la nouvelle Blindsus. Donc peut-être pouvez-vous nous dire déjà ce que veut dire Blindsus et puis ensuite nous expliquer pourquoi cette nouvelle vous plaît plus que les autres.
Voilà, Blindsus, ce sont des crêpes de fromage que l'on mange en l'honneur de Pentecôte. Donc à la Pentecôte, on déguste ces délicieuses crêpes au fromage qui sont arrosées de toutes sortes de sauces. C'est une nouvelle qui m'a beaucoup plu, parce que c'est une histoire d'amour, en fait. C'est ce jeune homme qui est célibataire, un célibataire endurci, et qui va rencontrer une dame de laquelle il va tomber follement amoureuse. Mais il va pas tellement tomber amoureux de la dame plutôt que de la nourriture qu'elle cuisine. Et Sholem Aleichem est un grand artiste pour décrire la nourriture.
Oui, et puis on sent aussi, peut-être Ariel Sion, vous pouvez nous en parler, que dans cette nouvelle, il brode aussi sur l'incommunicabilité entre les hommes et les femmes.
Oui, c'est ce qui vous frappe, Perrine. C'est ce qui frappe aussi beaucoup de femmes à la lecture de cette nouvelle.
Oui, parce qu'il faut le dire peut-être pour les auditeurs.
Il va tomber amoureux de celle qui tient la pension, qui est Madame Fine.
Voilà, il projette de l'épouser sans jamais lui en parler.
C'est-à-dire que lui se raconte toute une histoire sur cette dame qui tient cette pension, qui apparemment était belle, qui fait une nourriture délicieuse, et lui qui est un célibataire endurci, un séducteur, un gourmand, ben finalement va se raconter au fur et à mesure des repas, si on peut dire, des tas d'histoires sur cette femme, au point de faire venir son associé, au point de faire venir sa mère. Et dans cette nouvelle, finalement, si on l'analyse avec un tout petit peu de recul, bon, on rit, mais on est triste aussi pour lui, et on voit une société en passe de devenir une société moderne, où pourtant les rapports anciens de non-parole entre les hommes et les femmes continuent à exister, même si les gens se racontent des histoires d'amour qui prennent des proportions d'autant plus grandes que jamais rien n'est dit et qu'aucune parole n'est échangée. Voilà, jusqu'à ce qu'arrive celui qui ne devrait pas arriver. Enfin, ça, c'est au lecteur de trouver ce qui ne doit pas arriver dans la nouvelle.
Et d'ailleurs, vous évoquez cette tristesse, c'est quelque chose qu'on ressent presque à chaque nouvelle, c'est-à-dire cet humour, ce sens de l'absurde, cette tendresse, mais aussi effectivement cette tristesse d'un monde qui disparaît, de manque de communication entre des personnes que la judéité ne suffit pas à unir, voilà, une acculturation qui commence.
Non, mais c'est pas la judéité n'a jamais uni les juifs. Ça, c'est au contraire, plus les juifs sont juifs, plus ils disputent, et plus ils sont différents.
Ce que montre l'œuvre de Shalom Aleichem, on voit particulièrement les différences qu'il y a entre tous les juifs qu'il montre. Il montre les juifs de toutes les sociétés, et il montre surtout qu'il n'y a pas d'entraide entre les juifs.
Oui, oui. Il y a des constats souvent assez amers dans ces nouvelles.
Oui, c'est de l'amertume, c'est de la dérision et de l'amertume. C'est ce que, quand je disais que Sholem Aleichem n'est pas un idéologue, ce n'est pas par l'idéologie qu'il va montrer les choses. Il montre les travers des êtres humains, les travers aussi d'une société qui est en train, en effet, de changer. Mais il y a toujours, parce que Sholem Aleichem est quand même un maître de l'humour juif, et que ce n'est pas parce qu'on est malheureux qu'on ne doit pas rire.
Alors, il y a aussi des nouvelles qui montrent effectivement ce changement de société en train de se faire, puis qui se penchent sur les différentes strates de la société. Il y a notamment cette nouvelle « Trois petites têtes sur trois petits enfants » qui montre le prolétariat juif et la condition difficile des ouvriers.
On ne sait pas s'ils sont ouvriers, parce qu'on vous dit que le père va vendre des boîtes, faire des boîtes, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais en fait, ce sont des enfants qui ne voient pas le jour. Et en effet, ça fait beaucoup penser à ces romans du 19e siècle, de la misère urbaine, de gens qui vivent dans une très grande pauvreté, avec des enfants qui ne sortent pas, qui ne connaissent du monde extérieur que ce qui est rapporté par un autre enfant qui ne connaît de la nature que ce dont il entend parler au Cheder. Et on voit aussi cette pauvreté et cette tristesse et ces jeux d'enfants. Et là, Sholem Aleichem est peut-être plus triste que dans les autres nouvelles qui ont été choisies pour ce recueil, en effet.
Alors, il y a une nouvelle qui, moi, m'a particulièrement plu, c'est la nouvelle du début, hein, donc cet échange de correspondance, rien de neuf entre deux membres d'une même famille qui s'écrivent, l'un aux États-Unis, l'autre resté dans son village, dans son shtetl.
C'est pas un village, il est à Kishinev, c'est une ville, Kishinev.
Bon. En tout cas, rester au pays. Rester au pays, c'est sûr, et qui finalement ne se comprennent plus les uns les autres, et puis ce qu'ils arrivent à partager, finalement le mieux, ce sont les mauvaises nouvelles, et puis il y a cet humour formidable qui nous paraît presque surréaliste autour du pogrom, de la question des pogroms.
Oui, c'est une nouvelle tragique des deux côtés, tragique du côté américain, tragique du côté du vieux monde. Tragique du côté de Kishinev où les gens meurent, hein, où les pogroms font rage, et puis tragique du côté américain où le juif qui arrive est très heureux certes en Amérique, mais enfin il décrit un monde qui est en pleine déconfiture, hein, et chacun attend sa rédemption. L'un l'a trouvé en Amérique, l'autre l'attend aussi en Russie, et peut-être avec un nouveau monde qui viendrait, qui sait, d'une révolution. Donc en effet ce sont des échanges, et là, Sholem Aleichem est particulièrement, je trouve, sensible. Je ne sais pas ce qu'en pense Arthur.
Oui, absolument. Mais il a quand même son regard humoristique pour dans lequel il met dans son texte des mots anglais pour montrer que lentement le juif va bien s'adapter à un autre langage, à un autre mode de vie et tout, après avoir quitté l'Empire russe.
Oui, alors je cite, hein, les quelques lignes. « Nous, les artisans, sommes sans le moindre travail, mais il y a une chose, Dieu merci, avec laquelle nous sommes bien servis, c'est avec des pogroms. Le pogrom est même arrivé chez nous un peu tardivement, mais c'est pourquoi nous avons eu un pogrom avec tout le clinquant. » Donc c'est vrai que des lignes comme ça sont pleines d'un humour féroce, qui sont très, très réjouissantes à lire. Alors merci encore à tous les deux. Je rappelle, Ariel Sion, que vous avez traduit avec Arthur Langerban tous les deux, donc ces 13 nouvelles de Sholem Aleichem, qui paraissent donc chez Metropolis, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sous le titre « La vie éternelle ». Merci encore, c'était Merci. Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.